I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah ben moi, depuis que je fais des chroniques à France Inter, j'en ai fait depuis 2011. Et en fait, ils ont un site internet digne de ce nom depuis 2015 à peu près. Donc il y a vraiment eu 4-5 ans. Au début, t'étais là, les gars, ça serait bien que vous mettiez... Mais en même temps, c'est normal, à la base, c'était la radio, quoi. La radio, on faisait pas des vidéos, quoi. Donc maintenant, ça a complètement changé, ce truc-là, mais... Effectivement, le replay de France Inter est vachement profitable au... Enfin non, en fait, quand tu fais des trucs bien, c'est profitable à ton spectacle, en général.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
Donc tes auditeurs vont m'entendre vapoter.
Pardon. C'est pas grave, ouais. J'imagine qu'ils sont au courant.
Ils vont être déçus, ils pensent que je fume des vrais clopes de camel sans filtre.
De rocker.
Et là, écoute, du truc à la pomme, je fume.
C'est vraiment à la pomme.
Ouais, parce que je suis allé au Maghreb il y a longtemps, et j'étais allé dans les chichas, et j'étais là, pourquoi on a pas ça en France, des trucs qui exhalent le parfum de pomme dans rue? Et ben là, ça m'est... Quand je me suis dit, il faut que j'arrête de cloper, donc j'ai pas encore réussi à arrêter, mais je diminue avec la clope électronique.
Ah, yes.
Et donc, comme ils te font des ersatz de goût tabac qui n'ont pas de sens, vraiment, et donc j'aime mieux le truc. Alors, donne-moi le goût de pomme, j'ai l'impression de fumer du jus de pomme, c'est bien.
Comment ça va, Thomas? T'es content de remonter sur scène?
Ah ben, je suis remonté déjà quand même depuis un moment, hein. Ça fait quelques mois, mais ouais, tous les soirs je suis hyper heureux de monter là, parce que là on est dans la salle de l'Européen, ouais. Où je joue. Où je vais jouer d'ailleurs dans 1h30 là, donc dans cette salle qui va être pleine. C'est vraiment, ça fait un peu Luchini de dire ça. Et dans cette salle magnifique qui va être pleine où les gens viennent me voir et me regarder. En fait, non mais j'hallucine que.
C'est vrai que t'as un peu une diction à la Luchini, ceci dit, sur scène.
Complètement. Surtout quand je fais ah bah non. Non, on entend tout, la fontaine, on entend tout ça.
La poésie de la chanson française.
La poésie, ouais.
Puis beaucoup de chansons.
Tu l'as vu déjà, le
spectacle? Bien sûr, mais après,
ah, okay.
J'étais là-bas, okay. Enfin, les gens ne le voient pas, mais vraiment à côté. J'étais hilar.
Génial.
Tu sais, le mal des zygomatiques, là.
Ouais,
qui est toujours un très bon signe.
C'est un bon signe.
De spectacle, ouais, rigolo.
C'est vrai. Quand les gens partent en me disant j'ai mal aux joues, c'est un compliment.
Donc oui, bien sûr, beaucoup de chansons, tu es un spécialiste de la chanson, de toute façon on va parler de ton spectacle.
Je suis surtout spécialiste de mes propres chansons avec ce spectacle, parce que vraiment, personne, je pense pas que j'entre dans une catégorie spéciale de chansons qui existent. J'ai rien voulu inventer, hein, mais je me suis dit, comment je pourrais faire pour incorporer quelques petites chansons bien dégueulasses.
J'ai tellement ri.
Et donc voilà, c'est des chansons a cappella qui durent 40 secondes, ou des trucs avec des effets de synthétiseur un peu moisis. Hein.
Qui sont fabuleuses, vraiment.
Ouais, j'en ai pas mis beaucoup pour que ça,
apporte,
ça respire.
Je trouve beaucoup de, je sais pas, une forme de jovialité à ton spectacle,
ouais, ouais.
De musicalité aussi.
Ouais,
quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais sinon, comme le propos est un peu...
Oublie pas ton...
Ah, pardon, ouais, je parle vraiment
tu sais
comme... Ouais, comme Gainsbourg, il s'en fout, il laisse tomber le micro. Comme le propos du spectacle est un peu... Alors, je savais qu'il allait être lourd, donc je voulais qu'il le soit le moins possible. Donc, les chansons faisaient partie... de cet aspect du spectacle qui était censé réconforter un peu le côté lourd que je savais y allait y avoir dans le texte et dans le fond du, ouais. du discours et tout, même si quand je suis dans le discours un peu je veux encore une fois être le plus
bien sûr
rigolo possible. on va tous mourir, mais j'ai une bonne nouvelle rigolote à vous donner. Bon, c'est un peu l'idée du
spectacle. Globalement sur une thérapie.
Sur la mienne alors.
Oui,
peut-être.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Un petit peu.
Tu as écrit pour exorciser tes angoisses, quoi. Mais qui sont oui, pas que puis, tes angoisses en plus, je crois qu'elles sont que partagées par plein
que,
de gens.
Bah oui, non, parce que ma compagne, effectivement, c'est elle qui me les a un peu refilées. C'est un peu une espèce de sida qu'elle m'a donné, c'est l'angoisse du climat. Voilà, c'est un truc, c'est une nouvelle maladie.
Alors,
qui
ta peut... compagne, c'est Audrey Vernon.
Audrey Vernon.
Qui est économiste.
Qui est comédienne.
Mais qui est comédienne. Qui est économiste de formation, à la base.
Pas non, du tout. Pas non, du non, elle, non, elle a fait Cagne, Hippocagne.
N'importe quoi, alors. Très bien.
Elle a. Elle s'est passionnée pour l'économie.
Ah, ok, d'accord.
Et elle a fait des spectacles d'humour dessus, mais extrêmement instruits et dans lesquels on apprend plein de trucs, dans lesquels on se marre. Et donc son dernier s'appelle Billion Dollar Baby. Elle le joue à la Nouvelle Scène en ce moment. C'est brillantissime. Mais vraiment, je dis bon, voilà, les gens, ouais, c'est ta meuf. Ouais, c'est vraiment brillantissime. Beaucoup des idées brillantissimes qu'il y a dans mon spectacle. Et je peux en parler comme ça parce que les gens vont se dire, tu te la racontes. Non, mais attention, elles sont pas de moi. Ce sont des idées d'Audrey ou de Navo, évidemment, avec qui j'ai aussi punché énormément le spectacle et le talent infini de Navo. Mais donc voilà, donc.
Il y a des blagues de Navo. Enfin, les.
Ah oui, on a écrit avec Audrey et Navo, absolument.
Ah, okay, ouais. Je savais pas. Ok. Ça m'étonne pas, vous savez. Il y a une sorte de triumvirat maléfique là.
Alors c'est marrant parce que ouais, je pense que Audrey et Navo étaient, à part dans quelques plateaux que sur lesquels Navo travaillait à la production ou à l'écriture, je sais pas s'ils avaient vraiment travaillé ensemble, mais en tout cas bon, c'était moi là le noyau commun du truc. Et donc oui, comme tu disais, j'exorcise un peu. Non, tu disais une thérapie.
Moi.
Mais c'est une thérapie de mes peurs par rapport au climat. Mais c'est aussi une thérapie de. Comme j'ai bougé de Paris pour aller habiter à la campagne, c'est une thérapie d'accepter cette nouvelle vie de la campagne que je... Bon, que je, ça me faisait fantasmer, mais une fois que tu y es, t'es là, ah, mais je m'en doutais que c'était ça, putain. Enfin, il y a un truc un peu... Il y a des moments où tu dis, ah, putain, on se fait chier. Non. Alors non, mais non, je rigole, mais tu vois, par exemple, je suis incapable de capitaliser sur toute la terre de mon jardin.
Ouais.
Faut que je me mette à la permaculture. Alors, on a des potes qui viennent, qui sont spécialistes de ça, qui nous apprennent.
Et j'ai pas l'impression que t'es un gars de permaculture en fait.
Pas tout à fait. Ça, tu as bien tu as vu juste.
De l'extérieur, je me dis mais.
Non,
je crois pas que ce soit.
Non, on fait des tomates. ouais. Audrey a planté des murs. On a des murs. Puis, je sais pas, c'est bizarre. Apparemment, ça se plante à l'ombre les murs. Donc, je sais pas. Mais je dis mais ça ne donne rien. Et c'est à l'ombre. Elle me dit non, c'est normal, ça se plante à l'ombre. Je dis mais ça ne donne rien. Bon, alors c'est pas trop. Enfin, on a des mûriers en tout cas. On a des mûriers à l'ombre. On a des cerises, des pommes, mais bon, en fait, je donne pas l'impression que j'ai mon verger. On a un pommier, un cerisier, hein. Donc on s'emballe pas, quoi. Donc c'est pour ça, j'en parle de ça dans le spectacle. Je dis, ouais. Il s'agit pas de se dire, ouais, il faut viser l'autonomie. Si c'est la fin du monde, on va faire quoi? On va manger 2 kilos de cerises, là, au printemps, puis après, on va crever la dalle pendant toute l'année.
C'est surtout avoir très la chiasse, très très vite.
Mais très vite, là, parce qu'on va manger des légumes et des fruits verts, forcément. On va pas attendre qu'ils soient mûrs. On n'a pas le temps, on a trop faim. Bah oui. Manger, on va faire des recettes de noyaux de cerises, des gâteaux de noyaux. Non, mais je pense qu'il va falloir apprendre à utiliser tout plus tard.
Parce que ta femme est convaincue que l'effondrement, c'est pour bientôt, quoi. Enfin, en tout cas, que ça va arriver, qu'il y a un moment donné. Et donc.
Écoute, malheureusement, je pense certainement que l'effondrement, enfin, en fait, certainement, j'en sais rien, mais il va probablement pas se manifester de la façon fantasmée qu'on a tous de l'imaginer, c'est-à-dire avec les images un peu cataclysmiques de fin du monde et tout. Mais quand le Covid est arrivé, on s'est dit si ça c'est pas un signe annonciateur d'effondrement, c'est-à-dire qu'en fait un virus invisible, en fait, il nous force tous pendant 2 ans à rester chez nous. Personne l'avait vu venir ce truc-là. Alors
Bien sûr,
plein de scientifiques il y a longtemps disaient les vraies galères du 21e siècle, ça va être
les pandémies.
Les pandémies. Et tout ça. Donc là, c'est même pas les pandémies, c'est vraiment les variants, je dirais carrément.
Oui, puis on s'en sort plutôt pas trop mal parce que en vrai, c'est une grippe un peu vénère, si tu veux. Mais le jour où on va se retrouver avec
Ebola, quoi.
Voilà.
Oh là là. Mais du coup, je pense que je me voilà. Mais
j'aime pas de parler dans le micro.
J'aime mieux vraiment envisager et imaginer le pire.
Ouais.
Et faire des blagues avec.
Ouais.
Comme
et
ça,
des chansons.
Et des chansons de merde. Mais comme ça, au moins, ça me permet de. Alors, quand j'y pense à ces sujets, ça me terrorise vraiment. Tu vois, le changement climatique et tout. Et aussi, l'espèce d'inertie générale face à ça. Mais ça me. En fait, je dis général, en fait, j'accable personne. Pour moi, c'est pas les citoyens.
Bien sûr.
Donc, ça fait hyper. Plus jadis que je vais dire, mais c'est les politiques.
Les politiques.
Les hommes au pouvoir.
Ouais.
Mais en fait, je pense qu'il y a un changement de truc. Il faut arrêter. Enfin, en fait, moi, il faudrait qu'on bascule dans un monde tout de suite où on a le droit de mettre Elon Musk en prison. Et en fait, c'est une mission. Non, mais je veux dire, Elon Musk, mais c'est pas lui le pire, mais Jeff Bezos, tous ces mecs-là. Bon, alors, c'est les incarnations, en fait, de la nuisance généralisée et du monde, en fait. Parce qu'en fait, c'est grâce à des mecs comme ça que ça s'accélère, ouais. De façon... Là, en fait, tu vois, dans mon spectacle, je raconte que je prends plus l'avion. Là, je lisais, là, il y a une demi-heure dans ma loge, qu'en Europe, cette semaine, il y a 100 000 vols à vide qui ont circulé. Qui ont circulé là pendant toute la pandémie parce qu'ils voulaient garder leur couloir aérien. Mmh. Je suis là, mais j'ai l'impression que les compagnies aériennes viennent péter à la gueule de mes efforts de dire ok, je prends plus l'avion. Ils sont là, non. Tu vois, t'es là, mais en fait, on devrait, les mecs qui font ça, on dirait, mais non, il faut changer les règles du couloir. On arrête ces règles du couloir aérien qu'on garde. Mais celui qui a pas en tête de se dire c'est immédiatement qu'il faut faire ça, ben il a perdu la tête, quoi. Donc on est entouré de gens qui ont perdu la tête. Alors plein de gens vont dire ah oui, mais les gars, ils ont fait des efforts pour monter leur compagnie aérienne. Ouais, mais ils ont fait aussi beaucoup d'efforts pour être une nuisance pendant des années. Et donc voilà, à un moment, qui casse paye, quoi. C'est un dicton que j'avais appris dans Gaston Lagaffe, qu'à un moment Prunel lui dit qui casse paye, Gaston. Juste la fois que je le ressorte un jour.
Bah voilà. Voilà,
j'ai balancé là sur Jeff Bezos, mon pote.
Et d'un autre côté, tu vois, je me dis putain, Jeff Bezos, le jour où il prend conscience que vraiment c'est la merde, je sais pas si ça arrivera un jour, tu vois. Mais tous ces gens, ils ont tellement de fric qu'ils peuvent décider de changer la face du monde en l'espace de quelques années, quoi.
Ouais, alors attends, dans Don't Look Up, à la fin, Jeff Bezos, il s'en va dans un vaisseau dans l'espace, hein, où il est cryogénisé.
Putain, le pire personnage de tous les temps, ils ont réussi à les mettre tous ensemble.
Mais ils ont mis Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Bill Gates, Zuckerberg.
Dans un même perso.
Tout c'est cinglé, parce que bon, voilà. Bon. Alors après, attention, le discours que j'ai là, c'est vraiment un discours qui est celui de ma compagne, qui est un discours extrêmement étayé sur ces mecs-là, donc elle est passionnante à écouter parler là-dessus. Mais bon, moi, je les regarde, et effectivement, bon, grosso modo, elle dégrossit pour moi, je regarde, je dis, ouais, d'accord, non, c'est des tarés. Ouais. Et donc, tu peux pas avoir envie d'avoir autant de pouvoir, tu peux pas avoir envie d'avoir autant d'argent. Enfin, je sais pas comment on fait pour avoir envie d'avoir autant d'argent, quoi.
Moi, parfois, je vois Zuckerberg sur scène et je me dis, mais je suis sûr qu'en fait, c'est Men in Black, le bordel. Tu sais, il y a un
extra... J'ai pas vu Men in Black.
Tu sais, en fait, en gros, c'est des humanoïdes dans lesquels il y a des extraterrestres dedans, des petits extraterrestres, tu sais, dans
d'accord,
leur tête,
okay.
Qui s'ouvrent et qui font, ouais, mais parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est un robot, le mec.
Ouais, un robot en chemisette, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est fou.
Alors que s'il sortait un petit micro et qui faisait une petite chanson, d'un coup d'un seul, ça l'humanise.
Ouais, ouais, encore que bon. Est-ce que t'as déjà vu ce truc de comment on appelle ça, les conventions de Microsoft, où Bill Gates en 95, c'est en 95 qui lance Microsoft ou Windows, je sais ouais. plus. Et donc y a une grande cérémonie avec tous les employés de Microsoft et tout. Et là, tous les gars qui ont créé le logiciel, dont Bill Gates, ils sont 10 sur scène. Et la vidéo est mythique. Elle dure, c'est un extrait de 20 secondes jusqu'à qu'elle existe sur scène. Mais tu les vois. Et donc, la musique qui balance, c'est Start Me Up des Rolling Stones. Et là, tous les 10 gars, tous les geekos qui ont passé 5 ans juste devant un ordinateur, ils se mettent à devoir danser de façon expansive sur du rock des Stones. Et c'est le moment, et les mecs, ils tapent dans leurs mains, c'est pas en rythme, ils se regardent en étant, allez, ouais, c'est super, hein. Et c'est là, oh là 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 là, le moment incroyable que c'est. Ça, c'est vraiment un truc que je recommande.
Bill Gates. Aller le chercher.
Allez voir, c'est vraiment hyper drôle.
Ok, merci pour ça. J'imagine. Tu me l'as raconté, c'est
ouais,
bon.
C'est
je l'ai en tête.
Encore plus drôle.
Mais tu sais, on est là pour parler de ton histoire aussi.
Ah,
tu
pardon.
Vois et non, mais c'est intéressant parce que on dit pas pardon. Déjà, c'est moi qui te lance sur ton spectacle et tout.
Ouais.
Voilà. Mais la question que je pose à tous mes invités dans ce podcast, c'est en fait à quoi tu ressemblais, Thomas, quand tu avais 7-8 ans. On revient à la petite enfance là.
Ouais. J'essaie un peu de le raconter dans le livre que j'ai fait là. J'ai fait un livre cette année, mais bon,
je n'ai pas lu parce que je suis un mauvais intervieweur.
Ouais, t'inquiète.
Comédien
dans mon livre, je raconte que j'ai fait des interviews beaucoup de musiciens dont j'avais pas écouté les disques. Je raconte une interview de Moby où je lui parle de des essais qu'il écrit dans ses pochettes d'albums.
Ouais.
Il avait sorti Play,
ouais.
Et donc c'était le troisième interview que je faisais en une journée. C'était Moby en fin de journée. Et donc j'étais à l'arrache et tout, et puis donc je vois, il fait des essais, donc j'arrive à Moby, je dis alors tu fais des essais, tu parles de quoi et tout, il me dit mais tu les as lus les essais, Je dis, ah ben non, non. Il me dit, ah ben moi. Et là, Moby me dit en me regardant, il me dit, bah, tu sais, moi, si j'étais journaliste et que je demanderais à un mec si je lui posais des questions sur les essais, je les lirais avant. Mais ça, c'est si moi j'étais journaliste. Hein. Et je dis, enculé de sa mère. Et en fait, à la fin.
Chez toi. Bon,
et à la fin, il me dit, alors, t'as interviewé qui récemment? Et donc, je lui dis, bah, aujourd'hui, déjà, deux autres groupes. Et il me dit, ah ouais, d'accord, je comprends que t'aies pas le temps de lire les essais. Ouais. Donc, ça, c'est bien terminé. Mais... putain, on est déjà reparti. Ouh, c'était moi, mon gamin de 7 ans, alors. Bah c'était j'adorais j'avais deux grands frères, donc il y a une petite sœur. Donc mon deuxième frère, j'étais un peu son martyr, hein, j'étais un peu son souffre-douleur, il me tapait énormément sans raison. Des fois il me croisait dans la maison, paf, il me donnait un grand coup, un grand casse-cuisse, on appelait ça.
OK, donc, un casse-cuisse dans la dans le béquille.
Et c'est il tape
le,
là
le
et il tape
sur la cuisse.
Sur la cuisse.
Sur la cuisse.
Ah, c'est vraiment... oh, des fois à table, il se passait rien, d'un seul coup, bam, gros casse-cuisse. Et ma mère était là, "Oh, mais arrête un peu Mathieu." Et lui était là, "Voilà." Et j'ai dit, mais merde! Donc, j'ai pleuré très tard, moi. Je pleurais tous les jours jusqu'à 8 ans, je crois.
Oh, mais en fait, c'est pas par hasard que tu montes sur scène à un moment donné. Je veux dire, faut quand même avoir pris des coups dans la gueule par son grand frère, quoi.
Je sais pas, bah parce que j'en ai beaucoup mis en retour à ma petite sœur. Elle est mère au foyer, donc si tu veux. Mais, oui, non, en tout cas, par contre, par rapport à mes frères, je sais que je vois un lien avec le fait que je fais le rigolo, que je fais le comédien et tout, parce que, comme mes frères étaient donc très proches, 71 et 72, enfin c'est pas les années qu'ils ont, c'est les années dans lesquelles ils sont nés.
Toi t'es né en 77.
77 moi. Eux ils avaient un an de différence, donc du coup ils passaient leur temps ensemble et moi j'avais 6 ans de moins et il fallait que je fasse vraiment des trucs mais pas possible pour attirer leur attention et donc fois eux ils se déguisaient avec des trucs super et tout, moi j'arrivais, je disais, je peux me jouer avec vous, je mettais un slip sur la tête et ils disaient, ah ouais viens avec nous t'es dans la bande, je disais, ah, ça compte pour déguisement slip sur la tête, mais donc voilà fallait être hyper indulgent de leur part hein, tu vois. Pour que je...
Mais il tapait quand même, quoi.
Mais le deuxième me tapait, mais c'est super rapport avec mes frères aujourd'hui.
Oui. Mais c'est souvent le deuxième, il tape le premier, il tape le deuxième, il tape le troisième, et puis après, ouais. Toi, tu finis par cogner ta petite sœur.
Le dernier, vraiment, tu tapes le dernier, mais sans aucune vergogne. Il n'y a plus personne après, tu ne pourras pas taper. C'est moi qui tape. Non, mais je n'ai pas trop tapé ma sœur, mais je l'ai fait chier, j'étais chiant avec elle. J'y restais un biscuit. Ah, je le prends! Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Beaucoup autour du sucre à la maison. Les tailles de parts de gâteau.
Ah, yes.
Tu sais, mais des trucs, des rien, quoi. Tu compares deux parts. On était à la loupe. Quasi, oh, non! J'avais dit que j'en prenais! Ta gueule! C'était des trucs comme... Il n'y avait pas de ta gueule. Mes parents, ils ne laissaient pas nous insulter, mais c'était vraiment des bagarres, des trucs pour un bonbon, quoi. Tu vois, c'est des trucs pas possibles.
J'aime bien, Elena, ton attachée de presse, elle est là.
Elle a l'air d'être habituée à mes éclats de voix.
Ouais, c'est ça. Le mec hurle, elle est là sur son ordinateur tranquille. Ok, donc petit môme qui se fait un peu tabasser la gueule. Mais bon, c'est classique, hein, je crois, dans les fratries.
Ouais,
autour des années 70, c'était un peu la. Ça se fait plus trop maintenant. Tu laisses tes.
Je sais pas, moi. Ben non, mon petit garçon, il a 5 ans, ouais. Ma fille, elle a 2 ans, donc. Si, ben, il utilise son ascendant quand même un peu. Mmh. Et je vois un truc dont j'en ai parlé avec d'autres parents, parce que maintenant j'ai des conversations avec des parents sur les enfants, et qu'il y a une espèce de configuration, alors qui n'est pas tout le temps la même, mais quand t'es le deuxième enfant, ben, tu t'éveilles différemment aux choses, parce que t'as l'exemple du premier. Bon, ça semble complètement bateau ce que je dis, mais en fait, pour être spectateur de ça de l'intérieur, je me rends compte qu'en fait, ma fille est hyper, hyper dégourdie sur plein de trucs. Là où, en fait, ça fait depuis plus longtemps que je travaille à dégourdir mon fils, en fait.
Ouais.
Enfin, il était là avant, donc j'ai commencé par le dégourdir lui, puis en fait, elle est arrivée, je disais, mais elle se dégourdit, elle revient toute seule, en fait.
Oui. Parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est obligée de suivre. Ouais. Comme toi, tu mettais des slips sur ta tête, quoi.
Je sais pas, c'est vrai, ouais, exactement. Ouais.
comment t'en viens à te lancer dans, parce que tu fais le conservatoire, c'est ça,
j'ai fait le conservatoire à Tours, mais c'était vraiment en fait j'ai été accepté, mais il y avait pas beaucoup de gens qui se présentaient déjà, donc et puis très vite, et j'ai rencontré des comédiens là-bas que j'ai adoré, plein de gens, j'adorais l'ambiance entre les comédiens et tout, mais par contre c'était vraiment du théâtre du théâtre classique, du théâtre contemporain, mais vraiment du théâtre publié, du théâtre de la vraie littérature de théâtre, quoi.
Comment tu rentres au théâtre, ou en tout cas pour te dire tiens, en fait c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie.
J'en étais pas sûr.
Quoi,
en fait.
Tes parents?
Ma mère, elle était mère au foyer. Et mon père, il fabriquait du terreau, il était artisan, tu vois, il fabriquait de la terre de bruyère, des trucs comme ça, tu vois. Et mon père s'est retrouvé au chômage à cause d'un souci de santé quand il avait 40 ans. Donc on a déménagé de la Normandie à la Touraine.
Okay.
Et là, mes parents galéraient. Enfin, ils ont acheté une maison. Et en fait, mon père, il a changé de boulot puis s'est fait virer dès qu'il est arrivé. Donc on s'est retrouvé habitant en Touraine et mes parents étaient tous les deux au chômage nu. Et donc ils ont galéré pour tu vois qu'on puisse aller à l'école. Enfin tu vois ils sont démerdés quoi. Mais bon c'était pas du tout roulage sur l'or, mais pas du tout.
Ok.
Et comment je suis arrivé au théâtre? Écoute, en fait quand je suis rentré au conservatoire,
ça devient de plus tôt non?
Non oui parce que j'ai fait des clubs théâtre quand j'étais
quand
ado
t'étais
tu
gamin,
vois
hein.
Voilà club théâtre. Je faisais Molière, on était 40 à jouer le rôle de Monsieur Jourdain, tu vois. Il y a celui qui le jouait scène 3, scène 4 de l'acte 2. Vite, va te changer! Alors la pièce durait 8 heures, là, avec les parents et les caméscopes,
ils
étaient pas assez longs. Ah, putain, l'horreur. Et donc ayant fait ça, et puis ayant fait rire ma classe par le biais de ces clubs théâtre et tout, donc dans la famille, on se disait, ah Thomas, c'est un clown et tout. Et donc ma grand-mère m'avait offert un livre, Profession comédien, je me souviens. Oh là là. Et puis un livre de Sacha Guitry. Et puis un livre de Jean Anouilh.
Ah ouais.
Et en fait, elle s'était dit... bon, puis je lisais déjà quand même pas mal des trucs. J'adorais Desproges, j'adorais les lire les livres de Desproges. Je dis pas ça pour faire... Ouais, j'adore Desproges depuis longtemps. Parce que en fait, les spectacles de Desproges sont super, mais j'ai jamais accroché à regarder les spectacles de Desproges. Parce que je trouve qu'il avait pas de charisme sur scène. Mmh. Alors ces textes, par contre, à lire, c'est hallucinant. Quoi. Et donc surtout particulièrement les textes qu'il a écrits pour être lus. Notamment son roman mythique Des femmes qui tombent, qui est le seul qu'il a écrit.
Mais t'étais pas dans la veine de Coluche, par exemple, qui était plus un clown sur scène.
Ah si, j'adorais Coluche aussi, mais pas toute Coluche quand même. J'étais fasciné par l'histoire d'un mec, ou par quelques sketchs, tu vois, genre le Belge. Ah, le Belge, bon, je suis genre, qu'est-ce qui fait bien l'accent?
C'était
donc voilà, puis on avait
une
cassette. C'est vraiment une autre époque. Ouais. Le CRS arabe, c'était que des trucs, mais c'était que des imitations d'accent. C'était pas que ça, mais il y en avait beaucoup.
Ouais.
Et donc, j'ai des cadeaux comme ça, puis on me met en tête que j'aime bien le théâtre, en fait. Alors, et donc, je me dis, dès que j'ai l'occasion de le faire, parce que j'arrive à Tours, je me dis, je vais aller en fac d'anglais, putain, mais qu'est-ce que je vais foutre en fac d'anglais? Et en fait, je me dis, tiens, mes parents me disent, ah, mais tu pourrais essayer le conservatoire, donc je m'inscris au conservatoire, mais le mot conservatoire me fait peur, quoi.
Ouais.
Tu vois, j'ai l'impression que je vais devoir mettre des Bermudas, enfin, tu vois, que je vais devoir, que,
tu vois,
je vais avoir que des gars dans ma classe, ils s'appellent Anatole. Et Hippolyte, je sais pas, enfin tu vois. Non, mais qui a un truc très académique et tout. Et c'est ça.
Ouais.
C'est-à-dire que tu rentres dans un conservatoire, t'entends toujours les bruits des musiciens qui répètent, c'est toujours du piano, du violon, t'entends jamais un groupe de métal qui va jouer
clairement.
Dans le conservatoire. Et moi, j'écoutais de la musique pop, tout ça, du rock. Donc, j'arrivais dans un univers qui était pas le mien, même au conservatoire. Et donc, j'ai fait un an et demi de conservatoire. Et en fait, j'étais hyper content de fréquenter tous ces gens-là et tout. J'ai rencontré des artistes, des acteurs que j'ai adorés. Mais en fait, je m'emmerdais un peu parce que quand la prof, elle me disait, allez, vous allez faire Britannicus. J'étais, mais quelle mauvaise initiative! Parce que je vais m'emmerder, ça va vous faire chier, vous allez avoir plein de trucs à me dire, que je vais rien comprendre aux consignes. Et donc voilà, au bout d'un an et demi, je me barre. Et en fait, je découvre un pote qui a une compagnie de théâtre qui s'appelle à Tours, qui s'appelle Les Abonnés Absents et qui fait du café théâtre. Donc entièrement basé sur des impros. Tous les mardis, on se retrouve dans un bar et là, on tombe amoureux avec ce pote vraiment de nos sens de l'humour et tout. Et on fait un spectacle en un an et on s'éclate. On est presque plus content au répète qu'au spectacle parce que le spectacle finalement, on le joue trois fois en fin d'année. Mais on s'éclate avec ça et puis de là je me rends compte que je peux faire donc je fais j'incorpore l'équipe de match d'impro à Tours et puis donc du coup la compagnie de théâtre professionnel bon je te le fais très rapidement mais c'est comme ça que j'ai eu mes premiers cachets.
OK.
Et puis qu'en parallèle, j'ai lancé un fan club, le fanzine du fan club de Korn. Parce que c'est comme je le raconte dans mon livre. Ouais, t'es un peu au courant. C'est vrai que balancer l'info à quelqu'un qui est pas du tout au courant, t'as l'impression que t'es tombé un peu des nues. Mais donc
putain, j'aurais dû dire ton livre. Hein,
en fait, il y a sûrement beaucoup de questions auxquelles je réponds, mais là, je réponds un peu de travers.
Okay.
Voilà. Mais donc voilà.
T'as lancé le fanzine du fan club de Korn.
C'est moi qui ai monté. Je suis le président fondateur du fan club français du groupe Korn.
Déjà
PDG, président directeur général. Et ce qui est drôle, c'est que le mec, j'ai déjà raconté ça, mais. Le mec qui a un moment, j'ai complètement abandonné parce que c'est quand je suis arrivé au magazine des années après à Paris.
Ouais.
Il y a un mec, un jour, il m'appelle, il me dit « Ouais, je suis fan de Korn, j'ai vu que t'as abandonné le fanzine et tout, est-ce que je veux le reprendre ? Est-ce que je peux le reprendre ?» Et je dis « Ah putain, tu m'enlèverais une épine du pied de ouf, mais par contre, faut bien le faire. » Parce qu'il y a plein de mecs qui m'envoient des courriers à qui j'ai pas répondu, j'ai plein de courriers en retard et tout. Le mec, il me dit « T'inquiète, je gère tout. » C'est un mec d'Orléans qui s'appelle Sébastien Paquet.
Bonjour,
le mec,
Sébastien.
Alors écoute bien, il récupère tout le courrier en retard, il fait le premier fanzine. Alors déjà, il fait un fanzine imprimé, mais beaucoup mieux que moi, parce que moi c'était des photocopies que à la copie fac, tu sais, en face de la fac, il y avait des trucs de photocopie.
Un vrai fanzine.
Ouais, mais mal agrafé, tu vois, je savais pas agrafer, donc j'ai agrafé sur le côté, je pliais, j'ai agrafé, c'est dégueulasse. Et donc Sébastien Paquet, il arrive, il fait, donc je bosse à Roxane, parce que j'incorpore l'équipe, la rédaction du magazine, peu de temps après, l'expérience de comédien. Et là, il m'appelle, il me dit, ouais, c'est bon, j'ai sorti le premier numéro. Il me l'envoie, j'ai dit, putain, c'est hyper bien fait, il a hyper bien agrafé. Enfin, tu vois. Et puis il me dit, un an après, il me rappelle, il me dit, ouais, attends, j'ai trouvé un poste chez Sony. Je travaille chez Sony, je fais un stage à l'internet et tout, via Korn, via le fan club de Korn et tout. Génial. 6 mois après, je vais chez Sony des fois faire des interviews, je le vois, je dis putain, génial. Un an après, il me dit ouais, je suis embauché chez Sony. J'ai dit super, putain, mais tu cartonnes. Et depuis 10 ans, ce mec est assistant personnel des mecs de Korn.
Oh.
Depuis 15 ans. Il est parti aux États-Unis il y a 15 ans.
Génial.
Il a mis 2-3 ans à rentrer dans le cercle parce que les mecs de Korn le connaissaient et tout, mais là, il est photographe, vidéaste, assistant personnel des mecs de Korn.
Mais génial.
C'est un truc de ouf quand même, c'est quand même une histoire incroyable.
Juste par faire le fanzine des...
Grâce à moi! Tout ça, c'est grâce à moi!
Donc ouais, tu rentres, tu l'évoques là très rapidement, mais en fait, t'as eu toute une carrière de journaliste musical.
Ouais.
Comment tu... C'est pareil, en fait, en venant de là, tu te dis, bon, ok, je suis fan de musique, j'aime bien écrire.
Ouais.
Voilà, quoi. C'est...
Ouais, ouais, c'est vraiment...
génial, quand même.
Non, en fait, quand j'étais ado, j'écrivais des articles sur des groupes. Mais
ah ouais,
vraiment, il y avait aucune thématique. C'était un groupe que j'aime. Dans ma chambre.
Ah oui, ok.
J'étais là, je vais vous raconter l'histoire. Non, c'était pas ça, mais c'était pas des contes, mais c'était des, j'écrivais des articles sur des groupes que j'adorais.
Ok.
Parce que je lisais beaucoup la presse. Donc je pense que c'était des espèces d'imitations de style de journaliste, ouais, tu vois, avec des riffs acérés et des mélodies bien ciselées. Enfin, je devais en foutre des paquets, des adjectifs comme ça dans mes chroniques. Et tu vois, avec des bidouillages au-delà des sur le dernier morceau, de nombreux petits bidouillages, des mots qu'on retrouvait dans toutes les chroniques de disques. Et en fait, ouais, j'ai eu ce truc. En fait, non, la passion de la musique, elle a toujours été là. La passion de l'écriture aussi. Par contre, je me suis jamais senti vraiment l'âme d'un. Il y a un journaliste musique vraiment historique, très haut niveau en France, il s'appelle Jean-Daniel Beauvallet, qui est un des fondateurs des Inrock, qui a quitté les Inrock il y a quelques années, mais qui vient de sortir un livre qui s'appelle Passeur, dans lequel il raconte comment sa passion a été de passer. Mmh. Voilà. Et en fait, moi, ça n'a pas été ma passion. Moi, ma passion, c'était quand je découvrais un disque que j'adorais, ah ben ok, je vais l'écouter pendant un an et je ne vais rien écouter d'autre. Donc en fait, comme j'étais journaliste, c'était un peu compliqué, tu vois.
T'es un peu obsessionnel comme ça.
Je ne suis que obsessionnel.
Ok.
Je suis.
Je te comprends tellement. Je crois qu'il y a vraiment deux teams. Hein. Il y a les gens qui veulent découvrir et d'autres qui sont juste. Moi,
alors, je veux découvrir, mais je veux découvrir par de certaines façons. Tu vois, par exemple.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me rends compte des fois que je poste des morceaux sur ma page Facebook de musique, ma page perso. Je mets beaucoup de musique que j'aime sur ma page perso de Facebook. Et donc je me dis, mais quelle est la constante de tous ces morceaux, bien souvent, que je mets, parce que c'est les morceaux que je veux partager, que j'imagine les gens ne connaissent pas, ou tu vois, je vais pas mettre Bohemian Rhapsody de Queen là-dessus, tu vois. Et donc j'essaie de mettre des morceaux qui selon moi gagnent à être connus, et je me rends compte qu'une des constantes principales des morceaux, c'est pas ça hein, mais c'est vraiment un truc qui revient très souvent, c'est que c'est des morceaux que j'ai découverts parce que des artistes que j'adore, je les ai entendus parler de ces morceaux ou de ces artistes.
OK.
Donc en fait,
donc
je fais vachement confiance aux passeurs, tu vois. Mais par contre, je me considère pas du tout comme un... Alors si, je le suis quand je parle avec des potes de musique, on me dit toujours, ah, t'as des super conseils à nous donner et tout. Alors certainement, mais par contre, je pouvais pas bosser. J'ai dû m'arrêter de travailler dans un magazine parce que pour moi, c'était impossible de le faire avec un rythme contraint, qui était genre tous les mois, il faut faire 10 chroniques, il faut un artiste qui mérite d'aller en couverture, il faut et tout. Moi, j'étais là, j'avais pas ce champ de vision de tout en fait. Tu vois, dès que j'avais le nouvel album de Weezer, j'étais là, ah non, faites vos trucs, moi j'écoute le Weezer. Appelez-moi dans un an, salut. C'était vraiment, c'était. Et donc
tous les mois, Thomas VDB nous raconte sa nouvelle obsession avec Weezer.
Mais quoi. Non, mais si encore, j'avais une nouvelle obsession par mois, mais c'est pas ça. Non, grosso modo, je m'en rends compte. J'en ai une 20-30 d'obsessions dans ma vie comme ça, tu vois, de groupes, de chanteurs, de chanteuses, d'acteurs, de comiques. C'est comme ça que je fonctionne de façon obsessionnelle. Ouais.
Ok. Mais alors tu fais plein de choses en fait une fois que tu commences à parce que t'arrives à sur Paris c'est ça début des années 2000 un truc comme
99,
ça
99 ouais
et tu fais 1000 trucs c'est très compliqué de retracer ton parcours parce que j'ai vraiment l'impression que tu vas d'un endroit à un autre en fonction de je sais pas en fait c'est quoi je sais même pas si t'as, c'est quoi un peu. Est-ce que tu te laisses guider par les opportunités que tu peux avoir, etc. Est-ce que c'est assez ouf à quel point ton parcours est varié et divers, quoi.
Je n'ai pas de, enfin je n'ai jamais eu de plan.
Ouais.
En fait, si par exemple quelqu'un me, alors j'essaye de, maintenant je suis obligé de m'organiser, donc je suis obligé d'avoir un peu un plan.
Ouais.
C'est-à-dire de dire non à des choses. Mais avant, quiconque me disait, hey, tu veux bien faire ça avec moi? Je venais d'un endroit qui était tellement... J'ai grandi à Eu et à Beaumont-Véron, tu vois, il a fallu que je me fasse une place et tout. Donc, ouais. Dès que quelqu'un me tendait la main, j'étais là, quelle espèce de connard je serais de le snobber. Déjà, parce que ce serait pas sympa, puis parce que de quelle expérience géniale, peut-être, je vais me priver. Donc, pour cette raison, et qui a certainement parfois été une mauvaise raison, parce que j'ai fait des trucs mais dans tous les sens et des trucs complètement des fois j'y étais, je disais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que j'ai dit oui à ce truc de merde. Et mais ça m'a, au moins t'en tires des leçons de ça, tu vois, tu te dis bon bah, t'apprends à pas dire oui à tout et tout, mais au début ouais je faisais et avec joie. Je participais à tous les trucs bénévoles, des trucs bien payés. C'est même si c'était pas, à la rigueur, je préférais quand c'était pas payé parce qu'il y avait pas la pression.
Ah oui, tu veux dire.
Mais j'adore le côté, j'adore quand c'est pas payé. J'aime bien l'idée d'être payé aussi pour faire ce que je fais, mais quand c'est pas payé, je suis ah cool, on va pouvoir se marier, on va vraiment pouvoir dire toutes les conneries.
Ah ouais, parce que pour toi, l'argent vient mettre une forme de pression, c'est ça?
Non, parce qu'en fait, ce qui est ça l'avantage, c'est que France Inter, on est tellement mal payé que c'est comme être pas payé, franchement. Non, je te jure. Et donc, du coup, tu te dis, s'il faut que je fasse des blagues exactement pour le montant qu'ils me donnent, je vais faire un truc un peu nul, là, franchement. Donc, non, tu te dis, bah, tu fais le truc inverse, tu te dis, ouais, on a une liberté totale, on lâche les chiens, quoi.
Mais c'est vrai que limite, c'est sur France Inter que t'es depuis le plus longtemps aujourd'hui. Alors, avec la scène, certes, mais.
Ouais, 10 ans, j'ai l'impression là, d'être. J'ai pas Christine O'Krent, là, quand je dis ça fait 10 ans que je suis à France Inter. 10 ans de France Inter. Mais bon, mais attends, j'ai jamais été un hyper régulier à Inter. J'ai été régulièrement en 10 ans, mais on sait jamais vraiment quand on peut m'entendre. C'est-à-dire que mes chroniques, c'est un lundi sur deux, mais avant, j'en faisais deux fois par semaine. Puis j'ai plus voulu, parce qu'après, je trouvais que c'était trop. Je vais pas en faire, même toutes les semaines, c'est trop de boulot pour moi. Enfin, j'ai pas les idées qui viennent tout le temps. Mais donc oui, ça fait longtemps que je suis à France Inter, j'ai participé à plein d'émissions avec Stéphane Bern, machin et tout. Et puis là, depuis 5-6 ans, avec l'équipe de Charline Van Hoecker.
Oh là là, mais c'est vrai que... T'as l'impression que... Enfin, pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est le truc qui t'a permis de pouvoir te construire ta notoriété actuelle, non, je me trompe? Parce, mais en fait, pas France Inter, mais sur les catch-up, tu sais, sur les moments de replay, en fait, tu vois, de tes chroniques, quoi.
Ah ben moi, depuis que je fais des chroniques à France Inter, j'en ai fait depuis 2011. Et en fait, ils ont un site internet digne de ce nom.
Oui.
Depuis 2015 à peu près. Ouais. Donc il y a vraiment eu 4-5 ans. Au début, t'étais là, les gars, ça serait bien que vous mettiez... Mais en même temps, c'est normal. À la base, c'était la radio. Ouais, quoi. La radio, on ne fait pas des vidéos. Quoi. Donc maintenant, ça a complètement changé ce truc-là. Mais effectivement, le replay de France Inter est vachement profitable. Enfin non, en fait, quand tu fais des trucs bien... C'est profitable à ton spectacle en général. Tu vois, même s'il y avait pas les replays internet, je pense qu'il y aurait quand même des gens qui viendraient me voir, qui m'entendraient sur France Inter, j'espère.
C'est vrai. On n'a pas parlé de... T'as aussi animé beaucoup d'émissions de radio. Et alors moi, il y a un podcast que t'as fait chez Deezer, 100 VDB par minute.
Ah oui, ok.
Qui m'a fait péter... J'invite alors... tous les gens à aller écouter. Moi, ça m'a fait péter un câble. J'en pleurais de rire.
Mais pourtant, c'était vraiment... Il n'y avait pas de concept parce que le générique, c'était... Allez, on compte 1, 2, on compte jusqu'à 100, 100. Parce qu'on était... En fait, au début, on voulait faire... On voulait que le titre du podcast soit une parodie du film... 120 battements par minute. Et en fait, alors attends, comment, ensuite, comme le Deezer, avant j'avais fait un podcast qui s'appelait Nostalgie 2050, ouais. Mais Deezer, ils ont dit, ouais, Nostalgie menace d'attaquer.
Ah ouais, ok.
Ouais, ouais. Donc quand on a lancé le podcast d'après, on a dit, ouais, on fait 120 VDB par minute, ils ont dit, wow, wow, wow. On risque d'être emmerdé. Mettons 100. On va plus du tout savoir que c'est en rapport avec le film. Ça veut plus rien dire. Mais d'ailleurs, en fait, on voulait même pas parler du film.
Oui, c'est sûr.
Et on se dit, mais donc avec Jocelyn Borda, avec qui je fais ce truc-là, avec qui je m'éclate, et avec Romain Forgeor, qui est connu sur Twitter sous le nom de Jean Moundir, avec qui j'écris, ouais, aussi sur France Inter, qui est un mec génial et brillant, on fait ce truc et on écrit beaucoup des conneries dans ce podcast et tout.
Oh là là.
Et puis à un moment avec Jocelyn, on se dit, mais pourquoi ça s'appelle 100 VDB? Pourquoi? Quel est le concept de... Et on est là, on se dit, comment on justifie le titre? Et je dis, bah attends mon pote, on va compter. Et 1, et 2, 3, 4, 5! Et donc, à un moment, donc l'émission se passe, tu vois. Et puis à un moment, on est là, au milieu de l'émission, puis là, on remet la virgule, et t'entends 38, 39, 40 et 41, 42, 43! Et donc après, à la fin de l'émission, ça va 98, 99, 100! Et ça, c'était la structure de chaque émission. Compter jusqu'à 100. Donc bon, mais moi ça me
j'ai tellement ri devant.
Alors plein de gens me regardent, me crachent à la gueule en se disant, mais c'est pas, qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, chien.
Ah,
mais
bon,
écoute, mais en fait, compte fort, tu vas voir, c'est drôle. Compte en gueulant, tu vas voir, tu vas t'éclater, mon pote.
Mais je crois que si on te connaît pas et qu'on connaît pas ton univers, ça doit être complètement what the fuck.
Ouais,
parce
ouais,
que t'as
ouais,
des,
ouais, ouais. Ouais, non mais je c'est possible. Moi je ne m'écoute pas. Hein.
Ah oui.
Je ne peux pas m'écouter. J'ai envie de. J'entends tous les défauts. Ça me hérisse de m'entendre.
Ah ouais.
Ah ouais. Vraiment, incapable. Tout ce que je fais, tout ce. Alors aussi, par exemple, j'ai fait un film sur Arte l'année dernière, un téléfilm, et donc dans lequel j'ai un super rôle. Mais le film est vraiment démentiel. Un film qui s'appelle Claire Andrieux. Et le film est magnifique, donc en fait je me suis complètement oublié en le regardant. J'étais là, ah, ok, ça fait ça en fait quand on est hyper content de ce qu'on a fait.
Ah,
c'est-à-dire,
yes,
qu'on regarde l'œuvre à laquelle on a participé en s'oubliant complètement.
Mais donc ça veut dire que t'es pas content de ce que tu produis généralement ou...
Ben je sais qu'une fois que c'est produit, le aller à Jacques Taez. Donc okay. Si tu veux, je me dis que j'aille le réécouter ou non ne va rien changer.
Ok.
Donc si j'entends un truc où j'ai bafouillé, je vais pas endormir. Ou...
Ah oui.
Non, ou si j'ai planté une vanne ou un truc comme ça ou. Ça va, je m'en remets. C'est plus à quotidien. Quand j'étais à quotidien il y a 2 ans,
ouais,
j'y étais toutes les semaines. Et l'équipe était super et tout. Mais comme ils voulaient une certaine régularité, une régularité obligatoire qui était d'y aller tous les lundis, moi j'aurais dit impossible pour moi. Enfin, je l'ai fait 6 mois, mais j'aurais dit c'est trop de boulot pour moi. Un passage télé, tu vois, c'est pas pareil que la radio quand même. Tu vois, t'es observé, t'es ausculté,
ah ouais,
de partout. Bah ouais, vraiment. Bah, je trouvais ouais,
la pression qu'il peut y avoir aussi peut-être dessus.
Ah oui, clairement, ouais. Bah, que eux non plus, parce que tu vois, ils sont habitués, mais.
Ouais.
Moi, mes premiers passages, je me mettais un peu la pression quand même.
Ok. Il ouais. Faut qu'on parle aussi de ton spectacle sur Daft Punk. Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas?
Tu l'as vu, ça?
Bien sûr. J'ai failli décéder.
Ah ouais, c'était. C'est un des trucs vraiment que j'ai fait avec lequel je me suis le plus marré. C'était en fait je travaillais avec Kader Aoun à l'époque.
Donc Kader Aoun, pour les gens qui connaissent pas, c'est lui qui est connu pour avoir
qui a lancé plein de gens en France, enfin, qui a aidé à se développer énormément de gens, en tout cas.
Voilà.
Je sais pas s'il les a lancés, il en a
oui.
Bon, après ça se discute sur les mots,
oui,
mais
c'est
il,
ça,
en a,
c'est...
il en a vraiment aidé beaucoup à se développer.
Il était dans l'ombre de beaucoup de gens qui voilà.
Et Kader, quand il avait vu mon premier spectacle, il m'avait dit putain, mais je pensais que ton deuxième spectacle, ça allait être un spectacle de musique. Et j'avais dit, mais je suis pas musicien. Et il m'avait dit, bah justement. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est pas con. Je me dis, c'est-à-dire faire un concert, arriver avec tout le décor du concert et tout. Mais alors, par contre, je joue pas du tout de musique. Hein. Et c'est parti, la zik. Et donc les gens ils sont là, waouh, qu'est-ce que ça va être. Et c'était ça pendant une heure. Donc je, et donc c'était le premier morceau, c'était donc
je vous invite
à un extrait qui rentre
pas extrait sur c'est à Montreux, c'est ça, donc
à Montreux, c'est un four avec... c'était un four crématoire.
J'y étais cette année-là à Montreux.
Ah, t'y étais?
Ah ouais, j'ai vu ça. Ah, c'était fabuleux parce qu'en fait le public suisse est, comment dire, parfois hermétique.
Oh bah tu m'étonnes, c'était pas hermétique, c'était vraiment genre ils étaient vraiment dans une boîte fermée. Non, il y avait rien à faire, c'était une catastrophe.
Terrible. Et tu t'es battu pendant 5 minutes à...
Ouais, mais rien d'intéressant, c'est pas un super souvenir. C'est un souvenir un peu mythique de niveau de bide, parce que je pense que personne peut aller plus loin dans le bide que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que je pense qu'il y a personne qui riait, juste une personne qui devait être là.
Quoi?
Donc voilà, ça ressemblait vraiment à un bide.
Tu l'avais pas bien vécu. Je sais pas si tu te souviens, mais on s'était retrouvé pour petit déjeuner le lendemain et tout. T'étais pas bien. Hein.
Bah ouais, il y a des choses mieux à vivre qu'un bide, hein, c'est sûr, en général, d'une façon générale.
Mais je veux dire, t'arrives avec tellement de. Enfin, tu vois, c'est tellement millième degré, quoi. Que moi, je me disais, bon, bah Thomas, en fait, il vient, il propose un truc tellement fou, tu vois. Que...
Ouais, mais en fait, t'attends quand même qu'il y ait un retour, tu vois. Puis les gens n'ont pas du tout adhéré. C'est-à-dire qu'en fait, même dans le millième degré, il y a des endroits où j'attends qu'il y ait des rires. Tu vois, je me dis, il y en a bien un qui va le capter, cette connerie, dans la salle. Et donc, bon, quand je jouais au point-virgule, c'était super, les gens étaient morts de rire, mais. Parce que voilà, c'était l'histoire d'un mec qui a raté le train des branchés. Et qui se dit, putain, mais merde, je suis comique. Bon, ben, j'arrête l'humour. Maintenant, je fais de la French touch. OK? Allez, on dit que j'arrête l'humour. Vous rigolez plus, hein. Interdit. Allez, non, tu rigoles. Tu te barres pas, toi. C'est la French touch que je fais, là, mon pote. Donc, évidemment. Donc, c'était vraiment une espèce de comédien un peu dictateur sur scène. Qui était là. Non, vous dites que je suis branché, d'accord? Parce que Justice, c'est mes potes, mon gars. Je veux dire. Enfin, tu vois, je le connaissais pas, mais. Donc, c'était, voilà, c'était beaucoup l'idée, c'était ça te faisait marrer de montrer un mec qui rêve d'être validé par les branchés, parce que j'ai l'impression que on est beaucoup à courir plus ou moins, mais dans ce métier, dans les métiers de reconnaissance où tu te montres et tout, et tu quand tu cherches la reconnaissance, tu cherches la validation de tes pairs ou du public. Donc oui, tout le monde ne cherche pas la validation des branchés, mais il y en a qui en rêvent. Et ça, et en fait, cette aspérité-là, ça me fait marrer. Les gens qui rêvent d'être bien vus par les mecs qui comptent, quoi. Je les vois, tu vois. C'est comme s'ils s'éclairaient au milieu de la pièce quand ils arrivent. Je dis, ah, lui, il a envie d'être copain avec les gens connus, lui. Ça se voit tout de suite. Et donc, j'adore ce côté. Je trouve ça assez touchant en même temps. Mais donc, du coup, j'en faisais des caisses ex-perso qui voulaient être touchants parce qu'ils voulaient être dans la French Touch, mais qui étaient ridicules et pathétiques en même temps, quoi.
Putain, c'était vraiment terrible. Et en même temps, bah, en fait, je me dis, mais comment t'en es venu là, quoi, tu vois? Comment t'en es venu à inventer ce truc? Pour moi, c'était assez fascinant. C'était sorti de tellement nulle part, quoi.
Mais la preuve, mais en fait.
De chanter sur scène.
L'idée du spectacle, elle vient juste de faire. C'est juste ça. Et après, je me suis dit, putain, Thomas VDB chante Daft Punk. On se dit, c'est un super titre. Et après, on se dit, à quelle heure, putain, qu'est-ce qu'on va foutre dans ce spectacle maintenant? Et on l'a écrit et on a trouvé des trucs vraiment marrants.
Wow, complètement dingue. parlons de ce bouquin que je n'ai pas lu, mais en fait, parce que j'aimerais vraiment que tu... Pour moi, j'aimerais aussi faire le lien entre la scène et l'écrit, parce qu'en fait, tu as beaucoup écrit. C'est un vrai truc. Enfin, tes chroniques, elles sont... Avant que tu les dises dans le micro, les écrire, quoi, tu vois, tu les improvises pas. Qu'est-ce qui te donne envie de te dire, OK, il y a un moment donné où j'ai envie de mettre dans ce bouquin, c'est une autobiographie. Encore une fois, je l'ai pas lu, mais c'est une autobiographie. En fait,
c'est complètement
de toi,
une autobiographie. Et alors, le mot m'embarrasse énormément parce qu'en fait, c'est hyper prétentieux, quoi.
T'as quoi? T'as 44, 45 balais, quoi.
J'ai 44 ans, personne n'a écrit sa biographie à 44 ans. Et donc, je me suis dit, mais en fait, à la base.
Même Macron, j'ai pas écrit.
Même Macron, quand j'étais en 3e, il était en 5e, donc déjà, il se tait. En fait, à la base, je voulais faire un livre drôle. Parce que je suis très, j'adore les, il y a beaucoup de stand-uppers anglais, américains, qui écrivent des autobiographies. Mais en fait, en se disant, tu vois, ils font leur spectacle et tout, puis quand ils se disent, je vais faire un livre, souvent les mecs, ils écrivent un peu leur mémoire, mais très humblement.
Ouais, ouais.
Mais on se dit, uniquement avec pour raison, d'être drôle.
Ouais.
Et moi, je me suis dit, pareil, si j'écris mon autobiographie, faut avoir au moins la gentillesse d'être drôle à chaque page, ou d'essayer de l'être, du moins, tu vois. Alors je sais, c'est certainement pas réussi, mais bon, enfin tu vois, moi j'ai beaucoup de gens, beaucoup de gens me disent que ça les fait marrer, donc ça me fait très plaisir. Parce que voilà, je voulais faire un livre drôle et je me suis dit qu'est-ce qui est à ma portée. Moi qui n'ai jamais écrit de livre, il y a un côté sacralisé du livre où j'étais là, je ne vais jamais réussir à écrire un livre, moi.
Ah ouais?
Ben.
Enfin, en fait, en si, tout cas, si tu mets toutes tes chroniques les unes à la suite,
c'est
autres,
sûr,
t'as vraiment écrit.
J'en fais 40 des livres.
Mais... Ouais, c'est ça, t'as une Bible, quoi.
Mais en fait, en vrai, j'aurais rêvé, j'aimerais, même encore dans le coin de ma tête, j'aurais rêvé de faire un roman. Mais quand un roman, c'est comme une rédaction, mais très très longue, quoi. Tu vois, et donc. Il faut avoir, j'ai l'impression d'avoir l'idée de ton.
Un truc de fiction aussi, c'est pas.
Oui,
pas
une fiction, en fait. J'aimerais bien inventer une histoire qui me permette d'être drôle, une histoire drôle, en fait, tu vois, dans un roman.
Parce que pour le coup, c'est pas du tout ce que t'as fait.
C'est pas du tout ce que j'ai fait, mais en fait, voilà. Je sais même pas quand j'ai commencé à écrire ce que je comptais faire. D'ailleurs, quand j'ai envoyé le truc à l'éditeur, ils m'ont dit, c'était la première fois qu'on reçoit un manuscrit sans titre. J'étais là, mais les gars, je vous envoie pas un livre, je vous envoie des trucs que j'ai écrits, je ne sais même pas ce que ça, à quoi c'est censé ressembler. Parce qu'en fait, j'ai écrit des souvenirs et Audrey m'a dit, mais allez-y, continue, c'est hyper drôle et tout. J'étais là, mais ça ne va intéresser personne. Et puis, donc j'ai fait, au point que j'ai fait une pause de 2 ans. J'ai commencé en 2018 à l'écrire.
Mais pourquoi?
Parce que j'y croyais plus, j'étais là, mais c'est impossible, ça intéresse quiconque, tu vois, que je raconte que je faisais des copies cassettes de Slayer et de Niagara quand j'étais gamin. Non,
mais tu sais très bien que c'est.
Oui, c'est des madeleines, quoi.
C'est le sel de la vie, ça.
Oui. Mais bon, je me disais, je pense que les gens, ils s'intéressent au sel de la vie de gens qui ont plus d'expérience que moi, tu vois. Je pense que le sel de la vie de Thomas VDB, les gens, ils sont là, on a du sel, c'est bon, dégage. Donc.
Bah, tu sais très bien que t'as une façon.
En fait, non, très honnêtement.
Raconter les trucs.
Bah, j'en sais rien, mais en fait, oui. Je le sais mieux depuis que les gens m'ont dit, ouais, c'est super ton livre.
Ah oui.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le livre plaît. Voilà. Donc, très honnêtement, je m'attendais pas du tout à avoir autant de bons retours. Je pensais vraiment que ça allait bider et qu'on allait me dire, ah, merci, c'était cool, Thomas. Mais... Et en fait, ils en ont vendu presque 12 000, là, tu vois, c'est super, en fait. Enfin, je dis, Eric Zemmour, il nous écoute, il doit rigoler, mais.
Oui, bon.
Non, mais je veux dire,
Zour, donc voilà, le jour où Zemmour il fera des blagues comme toi déjà.
Ouais, déjà.
Calmons-nous. Moi j'attends
qu'il essaye d'être drôle.
J'attends
soit drôle une fois par page de ton livre, Eric Zemmour.
Il monte sur scène, tu vois, et qu'il chante son programme, par exemple. Tu vois, ça pourrait être fabuleux.
Mais ça justifierait les rassemblements debout de 1000 personnes qu'il y a, parce que les concerts on n'a pas le droit, mais dans tous les meetings politiques aujourd'hui, les gens sont debout, c'est ouf. Sans passe d'ailleurs.
Oui, c'est. Si j'ai bien compris, c'est le conseil, enfin, c'est la constitution, quoi. Tu
ils
vois,
ont dit, ah, pour les meetings politiques, on n'est pas obligé d'avoir le pass.
Ouais.
Et on a le droit d'être debout. Et donc, c'est là, ok, c'est des concerts où on parle, en fait. L'islam ! C'est l'islam, en fait.
Tu me racontais qu'Audrey était là en train de te pousser à écrire ton truc, elle lisait, etc. Comment ça se goupille entre vous, sans rentrer dans votre vie privée, forcément, quoi. Mais vous. Comment. Enfin, c'est. Je me rends pas compte à quel point dans un couple d'artistes vous pouvez vous tirer la bourre ou vous encourager d'une manière ou d'une autre, tu vois, tous les deux.
Audrey et moi, comment on travaille? Audrey travaille ses trucs à elle. Moi, j'essaie de lui dire, essaie de faire plus de clownerie dedans.
Ouais.
Essaie de faire plus de... Mais en fait, elle écrit ses textes d'abord. Elle écrit des textes qui, le plus important pour elle est de faire passer une idée.
Ouais.
Un contenu. Et de le faire de façon spectaculaire, dans le sens où que ce soit un spectacle. Elle est moins à cheval sur les éclats de rire que moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie que ça rigole. Moi, c'est la raison pour laquelle je vais sur scène. Alors même si des fois ça marche pas, mais.
Bah, franchement.
Non, non, mais si, non. Enfin, je veux
excuse-moi.
Dire.
Excuse-moi.
Non, non, mais là le spectacle marche super bien. Je suis très, très heureux. Mais et donc elle m'aide à rendre les éclats de rire plus pertinents ou plus sourcés ou plus. Elle m'amène du fond, en fait.
Ok.
Tu sais, moi, j'ai beaucoup parlé de musique pendant longtemps. Mon précédent spectacle, il parlait d'oisiveté, de moi qui regarde des vidéos de chiens sur internet et qui filme du shit.
Oh, c'était génial.
Et.
C'était bon chien. C'est sur Netflix, non?
C'est sur Netflix, ouais.
Déjà, le mec, il a une vidéo, il a un spectacle sur Netflix.
Putain, ouais.
Tu te rends compte?
Ouais, c'est cool.
From la campagne to Netflix.
Ouais, de eux jusqu'à Netflix. Et donc c'est elle, au nouveau spectacle, comme je me suis rendu compte que depuis que je suis à France Inter, je rebondis à ma façon sur l'actualité, parce que j'ai jamais été un passionné de politique ou d'actualité et tout, mais j'ai compris à un moment, après plusieurs années à Inter, que quand j'étais même le plus naïf possible, le plus candide possible, et que j'exprimais juste mon ressenti par rapport à quelque chose de l'actualité, quand bien même je l'ai pas compris...
Ouais.
C'est là que je suis le plus juste. Et donc je me suis dit, ah putain, mais en fait j'arrive à parler de choses du monde actuel... Et que ça marche, quoi. Je pensais que j'étais pas du tout dans l'actualité, de la politique et tout. Enfin, mais ces mots-là, ils font peur, tu vois. Les humoristes politiques, t'as pas envie d'être humoriste politique, ouais, tu vois. Ça fait comique de qu'écrit pour, je sais pas, ça fait truc des années 80, un peu, les humoristes politiques, je trouve.
Bah, je dirais que, tu vois, Guillaume Meurice, dans son style, il est un peu plus là-dedans, quoi, tu vois, parce qu'il a un côté engagé, etc., tu vois.
Il dépoussière le terme d'humoriste politique, je trouve.
Il dépoussière, comme tu dis.
Mais tu veux dire qu'il y a un côté... Je ne me pas comme un humoriste politique, mais j'aime m'emparer de sujets un peu politiques. Et surtout avec naïveté, vraiment je rappelle, ouais, méconnaissance des sujets, nul en histoire et tout. Donc, parce qu'en fait, moi, des fois, je suis perdu dans les débats, tu vois. Je suis là, hey, je pense que ce serait bien si on faisait ça. Et les mecs, ils sont là, hey, qu'est-ce qu'on fait de la grande bataille de 1834? Je suis là, merde, une grande bataille de 1834. Ah bah là, il est pas courant! Et donc, tu vois, donc, comme j'ai pas les repères, tout. Donc, je m'instruis. Et donc, Audrey est vraiment. Audrey est extrêmement instruite. Et donc, elle m'aide à plaquer le fond. Elle m'a aidé à plaquer du fond. Elle m'aide encore à le faire, hein, sur France Inter, ici, sur scène.
Et toi, de ton côté, t'essaies de lui amener un peu plus de clownerie, c'est ça, sur son côté? Mais
elle veut pas. Je lui donne des idées, elle. Ouais, ok. Mais donc bon voilà. Non, elle est pas elle aime quand les gens rient évidemment, mais elle veut
garder son style.
C'est vraiment un seul en scène, tu vois. Audrey, elle est plus attachée à l'idée de faire passer un texte que l'idée comme dans One Man Show, de faire éclater et de rire les gens, tu vois. Alors si les gens rient, elle va être très heureuse. Mais c'est une émotion, c'est le sens de ce qu'elle raconte qui compte.
OK. Et tu dirais que t'as gardé ton âme d'enfant, en fait, par rapport à cette histoire de regard sur le monde, etc. Et à côté de naïf.
Je sais pas si j'ai gardé mon âme, si je pense quand même un peu. Mais de toute façon, oui. Enfin, je ne vois pas comment je pourrais faire ça, en fait.
Quand t'arrives et que tu montes sur scène et que tu chantes comme un enfant.
Ouais, un peu, ouais.
C'est vrai.
Ouais, c'est ça. Un enfant qui a vu un concert de... Je sais pas, de Bruce Springsteen à la télé, il dit, ensuite il va dans la cuisine, il fait Born in the USA! C'est un peu ça, c'est cette même finesse, c'est vraiment ce jus de mélodie. Je pense que j'ai gardé mon âme d'enfant, parce que je pense que je pourrais pas faire ce métier-là, je pense, si j'avais pas gardé ce que j'estime ou ce que t'appelles mon âme d'enfant, en tout cas, c'est sûr. Parce que il y a une phrase qui me fait hyper flipper, c'est bon, il y a un temps pour rigoler, mais il y a un temps pour être sérieux. Non, je suis là, moi je prends le temps pour rigoler, s'il vous plaît. Je me mets dans l'équipe de ceux qui prennent le temps pour rigoler, parce que
t'as du mal à être sérieux.
C'est pas que j'ai du mal à être sérieux, c'est j'ai du mal. C'est une phrase d'adulte, tu vois, de celui qui dit bon, non, attends, je vais dire comment on fait. Et j'aime mieux qu'on me dise comment on fait. moi j'aime mieux vraiment qu'on me dise comment on fait. J'aime pas du tout. Alors il y a des choses que je comprends par moi-même, mais je me considère vraiment comme quelqu'un de... Je vais pas dire pas intelligent parce que, mais je pense que je suis quelqu'un d'intelligent, mais il y a une partie de mon intelligence qui est complètement désertée par, je sais pas, par exemple, tout ce qui est technique, tu vois, je ne sais rien faire de mes mains, mais rien faire. Là, je sais tenir un micro, je sais poser ma main dans mon autre main, je peux taper mon genou avec ma main, mais je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas conduire. Quelles espèces de malades mentales me donneraient le volant d'une voiture?
T'as jamais passé le permis?
Mais non, j'ai commencé les conduites, j'ai arrêté au milieu d'un cours, parce que la meuf me hurlait dessus. En plus, elle était à moitié folle. Elle me faisait flipper, elle s'appelait Marilyn à Tours.
Bonjour Marilyn.
Elle commençait des phrases où elle était hyper en colère. Et puis comme elle voyait que ça me contrariait, elle passait au hyper gentil. Donc elle faisait des trucs genre, enfin Thomas, tu vois, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, Thomas. Et j'étais là, je vais sortir de cette voiture. Et un jour, elle me l'a fait dans un embouteillage. Et je suis parti, j'ai dit, j'arrête, j'aurai jamais le permis. Et je l'ai pas, j'ai toujours pas. J'ai l'impression que ça m'a plus handicapé qu'elle, quand même.
Je crois aussi.
Mais je déteste. En fait, j'ai peur des voitures. Mais en fait, pour moi, c'est moi qui ai raison. Les gens qui ont pris la confiance en voiture sont oui. C'est là, ouais, méfiez-vous, parce que ça va un moment. Puis un jour, ouais, tu te prends un chevreuil ou tu te prends un parpin sur l'autoroute, comme moi, ça m'est arrivé. Un jour, avec un pote, on roule comme ça. Et moi, dès que je suis dans une voiture, je passe mon temps à redouter le truc dangereux qui va arriver. Mais chaque instant dans une voiture est composé de ça. Moi, pour moi, c'est je suis là. Donc en fait, quand t'es dans une voiture sur l'autoroute et que ton pare-brise explose parce qu'il y a un mec d'un pont qui a lâché un parpaing de 5 kilos sur ton pare-brise,
c'est vraiment...
ça m'est vraiment arrivé.
Quoi?
Ouais, je te jure, ma parole d'honneur avec mon pote Rodolphe.
Parole d'honneur, je te crois.
Non, mais oui, c'est vrai. Donc, de nuit, sur l'autoroute, un jour en montant de Bordeaux, on roule comme ça. Et le pare-brise explose. Et donc, on a un énorme caillou qui nous arrive entre les jambes. Et donc on est tous les deux, on tremble comme ça. Il y a une sortie gendarmerie, on y va et tout. Mais pour moi, mon pote, il était là, putain, retrouvez-les. Et moi, je disais au gendarme, dites aux gens d'arrêter d'utiliser des voitures, c'est fou de pas se rendre compte qu'il y a des mecs qui jettent des parpaings, quoi. Mais évidemment, on se prendrait pas de parpaings sur les voitures s'il y avait pas de voitures. Bon, s'il y avait pas de parpaings non plus, d'accord. Mais en fait, j'ai vraiment un truc, moins de bagnoles, putain, mais il y a combien il y a de bagnoles, mais putain, mais c'est gueudin, quoi. Et la thune qui file pendant le confinement, aux compagnies aériennes, ce truc de bagnoles, alors que c'est déjà les plus riches, mais tant mieux, il y en aura de moins en moins. Je veux dire, développer les transports en commun, mais mettez-nous qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse parler entre nous. Pas qu'on soit là, taisez-vous, je conduis. Enfin, tu vois, j'ai pas cette ambiance de bagnole. La bagnole individuelle, c'est un truc qui me révolte.
Ça,
quoi.
Je suis d'accord, mais après, il y a des moments géniaux en voiture.
Bien sûr.
De convivialité.
Mais évidemment.
Où tu évidemment. Tu mets mais la je musique sais, mais... et justement, et tu chantes fort.
Je sais bien. Moi, je fais le DJ en voiture. Mais ouais. Je suis un DJ qui a peur, parce que je suis un DJ qui a peur des accidents. Donc en fait, j'adore faire le... Mais d'ailleurs, ça me fait chier parce que depuis que Shazam existe, avant, j'adorais, tu vois, quand j'étais avec des potes en bagnole, je mettais mes morceaux, ils disaient, ah, putain, c'est quoi, ça? J'en disais. Et maintenant, ils disent plus rien, je les vois en loose day, ils sortent leur téléphone, ils Shazam mes morceaux. Je suis, vu! Eh, c'est moi qui te l'a fait connaître, hein. Tu diras que c'est grâce à moi que tu l'as Shazamé. Et donc,
C'est Weezer.
C'est Weezer, d'ailleurs. Tout ça pour dire que c'était Weezer.
C'est souvent Weezer.
Et donc, non, mais voilà, je m'emporte sur les bagnoles, mais en fait, surtout même les, mais c'est tout ce qui a un fil ou tout ce qui se branche, moi, déjà, tous ces trucs-là, ça me fait, j'ai peur de tout ce qui est, technologie, nouvelle technologie, développement. Je pense qu'à un moment, on pourrait faire une pause dans le développement des nouvelles technologies. Je pense qu'on a un super niveau, là. On peut dire, pendant 50 ans, on a besoin de rien de nouveau. Hein? On n'a pas besoin de, si, la médecine, ok, là, les gens mettent là, bravo, le cancer, on fait rien! Mais si, ok, la médecine, on fait. Mais les voitures, les avions, on n'a pas besoin d'en faire plus, là, on n'a pas besoin de fabriquer des nouveaux téléphones. Faites-nous des téléphones qui marchent 10 ans, quoi, putain. Ouais. Moi, quand j'ai changé mon premier smartphone que j'ai payé 400 balles, et donc un jour, tu vas le faire réparer, le mec, il le regarde, il me dit, ça fait 4 ans que vous l'avez, faut le changer, monsieur. Mais avez-vous perdu la tête? J'étais payé 400 € il y a 4 ans, un truc que t'as acheté il y a 4 ans, 400 €, durait 40 ans avant.
Ouais.
Et là, maintenant, tu te fais prendre de haut au Apple Store. Le mec, il dit, bah, monsieur, là, vraiment, faut le changer. Tu dis, mais vous êtes baisés, les mecs. Enfin, moi, ça, en fait, ça me rend, mais. C'est ça qui m'inquiète tout à l'heure quand je te parlais d'être dans une espèce d'inertie généralisée, qu'en fait, tout le monde accepte ce système de.
On est en train de boucler l'interview, hein. Bravo pour ça. Hein.
Ah, c'est vrai. Je croyais qu'on arrive, le public arrive.
On revient. Non, mais on revient au début. C'est...
Ouais, ouais.
Quel talent.
Je l'ai pas fait exprès. Hein. C'est pas.
Mais
non, mais c'est un truc qui me. J'aimerais me lâcher un peu avec ça parce qu'en fait, ça participe vachement de mes angoisses, ah, tu oui, vois, oui. Sur l'avenir.
Oui, j'imagine que. Mais c'est pas. Puis t'as des mômes pas... en plus, tu vois.
Ouais, j'ai des enfants.
C'est chiant, quoi.
Ouais.
Parce que tes enfants, ils vont grandir dans ce monde.
Comment?
Tes enfants, ils vont grandir dans ce monde aussi.
J'en prends beaucoup conscience. Ouais. Donc. Ouais, ça me. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Mais effectivement, il y a ma phobie personnelle de tout ce qui est technologique parce que je ne comprends rien. Mmh. Tu vois, quand j'étais en physique à l'école, j'avais 0 de moyenne.
Ah ouais?
Donc, quand je suis passé d'une école à l'autre, mon prof, il avait mis un bulletin, il avait mis ne peut que progresser. Mais de toute façon, sauf que j'ai jamais progressé, j'ai eu un demi-point, je crois, une année en physique. Je ne comprenais rien. Mais vraiment rien.
Mais ça t'intéressait pas?
Et donc, ah non, ça m'intéressait
pas. C'était, non. Ça juste, ça dégage, quoi.
Non, puis même, ouais, dans les maths et tout, je suis vraiment pas un esprit technique, et donc de maths et tout, les factorisations, ça, laissez-moi, je veux pas, je m'en servirai jamais, je vous jure, je trouverai quelqu'un qui saura les faire pour moi, promis, mais ne me demandez pas de faire des factorisations avec des inconnus, je veux pas les connaître, les inconnus, on les laisse, les inconnus, c'est très bien, on les laisse passer, c'est les inconnus.
C'est quand même ouf que t'aies fini avec Audrey, parce que j'ai tellement l'impression que vous êtes l'eau et le feu tous les deux, quoi, tu vois.
Oui, non, mais, on se rejoint sur pas mal de ces sujets là, okay. Sur un peu les trucs un peu décroissants, si ouais. Tu veux, par rapport à
d'où l'Essonne qui est une grosse partie de ton spectacle, faut le dire.
Absolument, je parle beaucoup de ma nouvelle vie en Essonne, oui. Alors, une bonne nouvelle pour les gens qui écoutent le podcast, il n'y a pas besoin de bien connaître l'Essonne pour comprendre les blagues, parce que les gens sont si vous faites de Bretigny-sur-Orge pour rigoler à toutes ces blagues, non, c'est pas la peine.
Bon, merci beaucoup Thomas, c'était super.
Merci Fabrice.
Tu joues ici, enfin ici dans cette salle à l'Européen jusqu'en mars.
Non, jusqu'au fin février et je joue au Trianon fin septembre, du 24 au 30 septembre.
Waouh.
Ouais.
Et après tu tournes.
Et je suis en tournée, sinon.
Mec, tourne partout quoi.
Ouais, jusqu'à juin et puis. Partout en France. Regardez par la fenêtre là, je passe.
Je mettrai tous les liens afin que les gens puissent découvrir ton travail. Un grand merci, c'était trop top.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.